C'est le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la liesse pour les Algériens de France et du monde entier. L'Algérie qui a remporté hier soir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en battant les Sénégalais 1-0. En sport également, une nouvelle victoire et un nouveau maillot jaune pour Julien Alaphilippe. Après un contre-la-montre hier à Pau, le Français de 27 ans que les spécialistes voient déjà en jaune sur les Champs-Élysées. Rendez-vous dans le journal des sports à la fin de cette édition. Parmi les autres titres de ce samedi, François de Rugy dédouané par une enquête interne de l'Assemblée nationale. Enquête selon laquelle les dîners polémiques de l'ancien ministre de la Transition écologique, démissionnaire, auraient eu du temps de sa présidence à l'Assemblée un caractère professionnel. L'écologie qui au demeurant constituera la trame de votre rendez-vous en compagnie de votre invité à 8h20, Amélie Perrier.
Oui, l'invité du grand entretien est le photographe qui nous a emmené le plus haut dans le ciel. Yann Arthus Bertrand viendra nous parler de cette planète qu'il capture dans ses clichés depuis 50 ans et d'écologie, mais aussi de son métier. Ce sera donc à 8h20.
À la fin de ce journal, des conseils de prudence avant la canicule et un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs et collectionneurs de vieilles voitures. Cela se passe à la Ferté-Vidame en Eure-et-Loire avec le rassemblement du siècle réunissant 4500 voitures dans le cadre du centenaire de Citroën.
France Inter.
Concert de klaxons, you-you, pétards ou feux d'artifice, drapeaux accrochés aux fenêtres, les Algériens de France ont fêté hier soir et une partie de la nuit la victoire de leur équipe face au Sénégal en finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des Sénégalais battus 1-0 sur un but marqué par les Fenecs dès la 79e seconde. 29 ans que les Algériens attendaient cela. Dans la capitale algérienne, les rues ont été prises d'assaut par les supporters. Scène de liesse également un peu partout en France, pratiquement sans incident, excepté quelques exactions à Lyon ou à Paris, mais très loin des incidents du week-end dernier. Le reportage dans les rues de Paris d'Adrien Todt-Follet.
Ce n'est qu'au bout des 90 minutes de ce match tendu qu'arrive la libération pour les supporters algériens. Très vite, ils quittent les bars environnants pour remonter l'avenue des Champs-Élysées. Sourire sur le visage, drapeau sur le dos, bandeau aux couleurs de l'Algérie dans les cheveux. Kera se prend en photo pour immortaliser l'instant.
J'avais mal au cœur et on a gagné. Et c'est super.
Scène de liesse, chant, tir de feu d'artifice, mais court et partage sa joie avec tous ceux qu'il croise.
C'est une grande surprise, on pensait pas qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Un grand bravo à la Sénégal, ils ont très très bien joué, mais on a été plus fort que...
Sur l'avenue, émassé tout autour du rond-point de l'Arc de Triomphe, beaucoup de familles, mais principalement des jeunes, comme Salim, qui n'ont pas connu le premier sacre de l'Algérie à la CAN en 1990.
J'avais 2 ans, donc aujourd'hui j'ai 31, et grâce à Dieu, j'ai pu voir une victoire aujourd'hui, donc je suis content.
Ambiance festive, sous la surveillance tout de même des nombreux CRS déployés, mais pour les supporters comme Omar, venu avec sa fille, pas question de laisser la fête dégénérer.
On est des Algériens, on vit en France et vive la France. Jamais on pense casser ou quelque chose. On aimerait bien montrer notre joie sur l'avenue la plus belle du monde, et on respecte tout le monde, et c'est bon enfant.
D'ailleurs, pas vraiment de débordement à signaler selon la préfecture de police, malgré une présence des supporters une bonne partie de la nuit.
Adrien Todt-Follet donc dans les rues de Paris. Cette nuit, nous reviendrons sur l'aspect sportif de cette rencontre qui s'est déroulée au Caire dans le journal des sports à la fin de cette édition.
Les dîners polémiques de François de Rugy à l'Assemblée nationale à l'origine de sa démission étaient tous finalement d'ordre professionnel ?
C'est du moins ce qu'a indiqué à France Info une source proche de l'enquête interne réalisée à l'Assemblée nationale. Enquête dont le rapport devrait être rendu public en début de semaine prochaine. Rapport selon lequel Julie-Marie Lecomte, rien de répréhensible en tant que tel, ne pourrait être retenu contre l'ancien locataire de l'hôtel de Lassay.
Une source proche de l'enquête l'affirme, surtout le volet dîner à l'hôtel de Lassay. On s'aperçoit que ce sont bien des dîners professionnels. Le rapport ne devrait pourtant pas rendre public tous les noms des invités. En ce qui concerne le sèche-cheveux haut de gamme qui a fait couler beaucoup d'encre, un sèche-cheveux à 499 € et plaqué or, cette même source est formelle, il n'existe pas. C'est un modèle de la même marque de luxe, mais un peu moins cher, qui a été laissé dans l'appartement de fonction. Sur la base des règles en vigueur, le rapport devrait ainsi conclure qu'il n'y a rien à reprocher à François de Rugy quand il était au perchoir, sur la base des règles en vigueur, ou plus exactement de l'absence de règles, et c'est bien le problème. Le rapport sera publié mardi. Dans la foulée, Richard Ferrand, qui a succédé à François de Rugy à la présidence de l'Assemblée, devrait donc proposer de réfléchir à en établir, avec l'aide de la déontologue. Indispensable pour que la suspicion ne fasse pas d'autres victimes, explique son entourage. François de Rugy, lui, ne souhaite pas réagir avant la publication des conclusions.
Et puis, réaction sur Twitter hier soir de Fabrice Sarfi, le journaliste de Mediapart à l'origine des informations qui ont conduit à la démission du ministre de la Transition écologique. Si l'Assemblée nationale a enquêté sur François de Rugy comme elle a enquêté sur Ben Allah, on sait à quoi s'en tenir. Fin de citation.
One giant leap for mankind.
C'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité.
Et oui, et cette phrase historique prononcée par l'Américain Neil Armstrong en posant pour la première fois le pied sur le sol lunaire remonte au 21 juillet 1969 à 2h56 du matin pour nous en France. Neil Armstrong, aujourd'hui décédé, qui sera suivi quelques instants plus tard sur ce sol poussiéreux et désertique de la Lune par son compatriote Buzz Aldrin. Cela fera donc 50 ans ce soir, jour pour jour, que des hommes foulaient pour la première fois le sol lunaire. Une première symbolique et fascinante pour des millions de terriens qui ont suivi en direct cette sortie, mais pas pour Nicole Rago, cette fillette rêveuse et pleine d'imagination à l'époque, aujourd'hui à la retraite en Mayenne, regrette que l'on ait ainsi brisé son rêve. Nicole Rago, au micro de Germain Treille de France Bleu Mayenne.
Moi, j'étais un petit peu en retrait parce qu'il m'avait fichu en l'air mon rêve. Il savait maintenant ce qu'était la Lune, un truc avec plein de poussière où il n'y avait rien qui poussait d'extraordinaire. Et moi, je rêvais moins. Quand vous avez Musset qui parle de la Lune comme un point sur un i, Jules Verne qui fait le voyage autour de la Lune. J'étais déçue parce qu'il m'avait cassé ma Lune.
Et voilà, une épopée que nous allons vous faire vivre en tout cas, ou bien revivre dans chaque journal de la matinale de ce samedi et de demain dimanche, et que vous pourrez également retrouver sur notre site franceinter.fr au travers d'images, de vidéos ou encore de témoignages recueillis par Stéphane Combe.
À 8h06, la suite du journal, un nouvel épisode caniculaire est attendu dans les heures qui viennent, épisode qui va se poursuivre la semaine prochaine, Serge.
Et qui dit canicule, dit chaleur et sécheresse et par conséquent risque d'incendie. D'où les appels à la prudence et les consignes de sécurité rappelées par les élus et les services de secours, comme en Meurthe-et-Moselle où l'on craint le pire. Laurent Vatrin de France Bleu Sud-Lorraine.
La sécheresse et la chaleur augmentent fortement les risques d'incendie. En Meurthe-et-Moselle, les pompiers et les élus locaux multiplient les appels à la prudence et les dispositions pour éviter les dangers. Près de Nancy, le maire de Pompey, Laurent Troglic, a pris des mesures pour sa zone de loisirs du plateau de l'Avant-Garde.
Nous avons une gestion différenciée en termes de tonte, de fauchage, qui permet d'éviter les propagations d'un éventuel incendie sur des zones plus fragiles. Et puis nous avons installé des espaces barbecue sécurisés.
Les barbecues en pleine nature sont interdits et de manière générale, il convient d'éviter certains gestes risqués, comme l'explique Vincent Maire, pompier dans le secteur de Lunéville.
Ne pas jeter un mégot, ça peut paraître bête, ne pas jeter même une bouteille en verre. Une bouteille en verre peut, avec les rayons du soleil, peut déclencher une flamme et tout simplement, entre guillemets, ne pas pousser les moteurs au surchauffe-machine.
Garer sa voiture sur l'herbe avec un pot d'échappement surchauffé, c'est aussi prendre le risque de mettre le feu. Plusieurs véhicules ont été brûlés la semaine dernière au bord des champs dans le nord de la Meurthe-et-Moselle.
Nous allons maintenant prendre la direction de la Ferté-Vidame dans l'Eure-et-Loire. C'est là que se tient tout ce week-end le rassemblement du siècle pour le constructeur Citroën qui fête cette année son centenaire. De la traction à la DS en passant par les SM et autres GS, 4500 voitures, 4500 Citroën venus du monde entier attendent les visiteurs dans le parc du château de la commune. Collectionneurs ou tout simplement amateurs, les organisateurs attendent au moins 45 000 visiteurs. Les précisions d'Alain Turet, le président des clubs Citroën.
C'est l'événement phare puisque c'est le grand rassemblement de tous les collectionneurs et c'est le rassemblement du siècle. Vous allez voir le plus grand parking vivant de voitures puisqu'il y a à peu près 4500 voitures exposées, voitures de collection évidemment, anciennes. On trouve tous les véhicules mythiques et en fin de compte on trouve aussi beaucoup de véhicules de l'ère d'André Citroën, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les caisses carrées. Voilà, donc les Tipa, les Rosalie, etc. Et donc toutes ces voitures-là qui sont mises en avant au niveau de l'événement. Qui est à peu près 30% on va dire de véhicules étrangers qui viennent d'Europe, mais pas que d'Europe, d'Afrique du Sud. On a Nouvelle-Zélande, on a l'Australie, le Japon, la Chine et aussi on a une délégation qui vient de Russie. Par la route.
Oui, Alain Turet qui nous a confié ne pas vouloir assurer le prochain centenaire. Ce ne sera pas, certainement pas le cas. Mais c'est vrai que la charge est plutôt lourde. Alors au programme de ce rassemblement du centenaire, des expositions, concerts, spectacles, ventes aux enchères ou bien de pièces détachées, c'est à la Ferté-Vidame, donc près de Dreux. Coût de l'entrée, 12 euros, Amélie.
C'est le journal de Serge Martin.